Amén.
Comment dire nos convictions? Comment les faire partager, qu'elles soient bien comprises, qu'elles soient bien reçues? Bien sûr, le sujet, on a quand même quelques idées. Hein, on évoque spontanément le témoignage verbal, et le témoignage dans notre vécu de tous les jours. Il y a nos choix de vie aussi, c'est des choses qu'on parle. Nos engagements dans la société. Voilà certaines choses qui sont très bonnes. Ceci dit, il y a une autre piste qui risque de passer inaperçue. C'est ce que suggère le texte que je vais lire. Un texte qui pose la question de ce qui est vraiment utile. Qu'est-ce qui est utile? Je lis dans l'évangile de Jean au chapitre 12, à partir du premier verset. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, qui l'avait réveillé d'entre les morts. Là, on donna un dîner pour lui. Marthe servait, et Lazare était l'un de ceux qui étaient à table avec lui. Marie, donc, prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il avait le souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on lui mettait. Mais Jésus dit: « Est-ce à garder cela pour le jour de mon ensevelissement ? Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Qu'est-ce qui est utile? Dans notre histoire, dans notre récit, il y a des personnes qui organisent le repas, qui font tout ce qu'il faut pour inviter tout le monde au moment où il faut. La circonstance s'y prête bien. Hein. Lazare vient de revenir à la vie. Hein, il y a donc de quoi se réjouir. Et bien sûr, c'est le moment pour eux d'exprimer leur reconnaissance à Jésus. Donc, parmi les acteurs, parmi ces personnes actives, il y a Marthe, celle qui s'était emportée contre Marie, sa sœur, vous savez, qui avait choisi de rester au pied de Jésus pendant qu'elle faisait tout le travail. Et comme on peut le voir, elle n'a pas beaucoup changé depuis, puisqu'elle servait. Mais cette fois, elle ne proteste pas que sa sœur ne soit pas à ses côtés. Eh bien, voilà une personne utile, hein. Il en fallait des gens comme elle, sinon, il en fait beaucoup. Hein. Dans ce qui est utile encore, il y a cette valeur de 300 deniers. Alors, la bourse personnelle et le Judas s'en serait peut-être bien trouvé, mais 300 deniers, c'est quand même pas rien, hein. C'est aussi, on dit, l'équivalent de ce qu'il fallait à une famille pour vivre presque pendant une année. C'était assez énorme. Hein. Donc, donner dans une famille dans le besoin ou distribuer à des pauvres, 300 deniers, ça pouvait être utile. Et Judas, est-ce qu'il était utile? Comme un vrai professionnel du commerce, eh bien, il évalue le parfum dans un simple coup d'œil. Ou deux, si vous préférez. Judas n'était pas utile, il était nuisible, bien sûr. Mais, semble-t-il, on peut quand même lui accorder d'avoir estimé le prix du parfum et de la sorte d'avoir bien souligné l'importance du geste de Marie. 300 degrés. Il le fait savoir. C'est l'hommage de l'Église à la vertu. Après, ce qui est utile, peut-être ce qui est moins utile. Quand on parle de Marthe, Marie n'est pas loin pour faire le contrepoint. À l'opposé de sa sœur, Marie, c'est une contemplative qui se met au pied de Jésus. Alors, ce n'est pas la première fois, mais là, c'est encore plus gênant, si je peux dire. Elle entre en scène, que dis-je, elle se met en scène dans une attitude qui, à l'époque, était assez inconvenante. Les cheveux des filles au pied de Jésus pour les essuyer, hein, ça ne passait pas inaperçu. Et tout cela, non pas pour être utile, audable comme sa sœur, mais pour gaspiller 300 deniers dans sa démarche. Alors le parfum, est-ce que c'est utile? Surtout quand il est aussi cher. Surtout quand il s'écoule par terre et se perd. Il y en a qui s'en offusquent, Judas. Et encore heureusement qu'il n'imagine pas que Jésus va ne rester que 3 jours dans le troupeau. 300 denis pour 3 jours. De toute manière, même si Jésus accepte cette onction comme un signe pour le prochain jour de son ensevelissement, on sait par ailleurs que Joseph d'Arimathée et Nicodème vont tout faire selon les règles pour l'embaumement des corps. Voir à quoi bon finalement toute cette dépense. Mais après tout, est-ce que pour nous ce récit est vraiment utile? Si Jean ne l'avait pas raconté, s'il ne figurait pas dans l'Évangile, s'il était passé sous silence, qu'est-ce qui aurait changé dans l'offre de salut qu'on y trouve? Jésus aurait quand même bien acquis notre pardon sur la croix, quelques jours plus tard. Il aurait bien été ressuscité. Il aurait envoyé ses disciples en mission le jour de son ascension. L'Église serait apparue le jour de la Pentecôte. Mais voilà, il se trouve que ce texte se trouve également dans les autres évangiles. Alors, qu'un récit qui peut avoir une apparence inutile soit rapporté plusieurs fois ailleurs, c'est sans doute pas pour rien. Quelle est l'utilité de ce passage? Bien, je dirais d'abord que nous sommes à 6 jours de la Pâque, 6 jours avant la souffrance de Jésus, la passion de Jésus. Et avec cet acte de Marie, Jean nous fait entrer de plein pied dans la dernière semaine, une semaine importante. Et Jésus le confirme. Pour le jour de mon ensevelissement. En fait, cette onction était pour les disciples une vraie proclamation de l'Évangile, proclamation prophétique, mais aussi pédagogique. Elle illustre encore aujourd'hui la valeur de ce que le Fils de Dieu nous a donné. Sa propre vie, une valeur devant laquelle rien n'est trop cher. Le parfum de Marie, ce n'était pas trop cher. Ensuite, et c'est là que le moins utile, ou plutôt ce qui peut paraître le moins utile, peut devenir prioritaire. Jésus le dit, il y a des moments où même les pauvres peuvent Évidemment, ce n'est pas un prétexte pour négliger ceux qui sont dans le besoin. Jésus était sensible à la pauvreté et au malheur de ceux qu'il croisait. Justement, ici, il fait valoir que tout le reste du temps peut leur être consacré. Vous les aurez toujours avec vous. Il n'en reste pas moins que l'expression de notre reconnaissance peut prendre, dans certains cas, une place importante. Et quand on parle de reconnaissance, notre récit ne montre pas forcément que ce sont seulement des mots, des chants, des prières, si belles soient-elles. Que faire ? Servir Dieu, servir les autres, lui dire notre amour, notre reconnaissance, bien sûr, mais aussi, pourquoi ne pas le faire à l'image de ce qu'il a fait, c'est-à-dire en prenant en compte la perception que chaque être humain a de Dieu. Parce qu'il y a du beau qui parle à nos sens, à l'ouïe, à la vue, et pourquoi pas à l'odorat. L'Église des chants, Jésus en parle, l'Église des chants dont la beauté dépasse la gloire de Salomon, sont bien un rappel que Dieu a fait du beau. Marie offrait quelque chose qui pour elle était absolument magnifique. Alors pourquoi pas, même si parfois ça peut coûter un peu plus cher comme un parfum de grand prix. Dit autrement, je pourrais poser la question, mais qu'est-ce qui est vraiment utile ? Est-ce qu'un maçon est plus utile qu'un décorateur, un musicien ou un poète ? Ça dépend. Ça dépend des situations, bien sûr, mais la conscience que l'on a de la grâce de Dieu pour nous, l'idée que l'on se fait de Dieu et de ce qu'il a fait pour nous, ça peut quand même avoir une influence dans nos choix. Alors, pour terminer, je plaiderai pour que nous soyons sensibles à ce genre d'expression de reconnaissance. Pas obligatoire, mais il y a quand même des occasions qui s'y prêtent. Par exemple, je prends un exemple pour expliquer, quand dans une conversation on ne trouve pas le bon mot pour exprimer ce qu'on veut dire, on s'exprime avec les mains pour préciser avec des gestes. C'est en quelque sorte le langage des signes. Et c'est ce que faisait Marie. Marie utilisait un langage qui témoignait avec éloquence de son amour pour le Seigneur et en même temps qui proclamait que celui qui avait donné la vie à son frère allait accomplir encore quelque chose qui dépassait tout ce qu'elle pouvait exprimer en paroles. Ouais, c'est important le langage des signes, quelquefois. Justement parce que notre langage parlé, quelquefois, ne dit pas absolument tout. Et que ceux qui voient, ceux qui nous voient, sont pas forcément sourds, en tout cas ne sont pas aveugles. Autre exemple, si vous êtes invité à un festin de noces, eh bien sans doute vous trouverez la meilleure manière de vous habiller. En soi, s'habiller d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas forcément utile, et ça peut revenir un peu plus cher, mais c'est un langage pour exprimer quelque chose à ceux qui vous ont invité. Quand je parle de coups, il n'y a pas que les espèces sonnantes et trébuchantes. Il y a sans doute mille et une manières pour exprimer ce qui est pour nous le plus important et qui ne sont pas forcément onéreuses. C'est à nous de les trouver et à nous de trouver le bon moment aussi. Parce qu'il y a un temps pour ça et un temps pour les pauvres. Alors, quel est notre langage des signes? Bien sûr, tout le monde n'est pas artiste, tout le monde n'est pas sensible aux mêmes choses. Et ce langage n'est pas une obligation à imposer à chacun. De plus, il ne remplace pas la parole. Et puis, tout le monde n'est pas réceptif à ça. Mais si c'est un langage vrai, s'il dit vraiment le fond de notre âme, eh bien je crois qu'il peut parler. Parler de la conscience que nous avons de ce que Dieu a fait pour nous. En sorte qu'on puisse nous dire un jour, je vois bien ce que vous voulez dire. Et bien que le Seigneur.